Bondy Blog Café.
www.bondybloccentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre de ce mercredi 24 juin de l'année 2020. Une première émission enregistrée dans les conditions du direct depuis la Maison pour tous, Rôle Tanguy, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le quartier des Salmoneries. Le 12 mars dernier, le président de la République Emmanuel Macron déclarait l'état d'urgence sanitaire suite à la pandémie internationale de Covid-19. Le 16 mars, les élèves de maternelle, primaire, collège et lycée bénéficiaient du dispositif Nation apprenante, la continuité pédagogique. Les enfants et les jeunes avaient à poursuivre leurs enseignements en distanciel. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, estime à 4% le taux d'élèves sortis des radars durant ce confinement. Des mesures sont déjà envisagées pour remobiliser les enfants et les jeunes décrocheurs à la rentrée. S'ils ont été éloignés de leurs professeurs, ils ont également été des animateurs avec lesquels ils sont en contact tout au long de l'année, après la classe de la journée, pendant leur temps libre du mercredi et pendant leurs vacances. Nous allons parler aujourd'hui du confinement solidaire tel qu'il a été mis en place à la Maison pour tous Rôle Tanguy à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Comment les animateurs du centre ont-ils travaillé à mettre en œuvre leur projet social auprès des habitants durant cette période inédite de confinement ? Quels outils ont-ils mis en place pour garder les liens avec leur public ? Quels ont été les inconvénients de cette distance avec les publics ? Y a-t-il eu des innovations positives qui ont été mises en place ? Nous allons parler de tout cela avec Youssef Dekker et Manon Le Sollier, qui sont tous les deux animateurs et animatrices au secteur jeune, et Philippe Riffet, le directeur de la Maison pour tous, Rôle Tanguy. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Alors, ma première question, on va revenir un peu en arrière. On est le jeudi 12 mars, voilà, il est 20h, et donc le président fait son annonce à la télévision, à la télévision française, sur les différentes chaînes de la télévision française, et donc annonce la fermeture des écoles pour le 16 mars. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, ici, au centre social, suite à cette annonce ?
Ça a d'abord été la surprise pour tous. Après, effectivement, pour nous, c'était de pouvoir à la fois, enfin, en tout cas pour moi, à la fois de mettre en pratique concrètement le repli ou le retrait de toutes les membres de les équipes à la maison. Enfin voilà, tout le monde a réorganisé ça, tout en sachant qu'on avait pour mission aussi d'accueillir les enfants des personnels soignants. Donc ça a été vraiment la première chose que nous avons mis en œuvre. Et puis de voir et de constater que tout doucement, toute la vie s'est un peu arrêtée. Et tu précisais dans ta question, l'annonce sur la télé française, et très vite de constater que qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qui se passait en fait, et plein d'habitants sur le quartier. On a un quartier avec une particularité où il y a une forte communauté turque, et les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris ce qui se passait, et ça a bien mis une semaine voire 15 jours avant véritablement qu'on puisse informer, reprendre un peu le dessus, maîtriser un peu la situation. Je pense qu'il y a eu un moment de flottement. Alors pas pour nous, parce que nous on était vraiment dans la mise en place de l'accueil des enfants, des personnels soignants, et on a continué notre activité avec une toute petite équipe. Mais sinon c'était compliqué. Donc tout de suite on a mis en place des actions pour informer les gens. En fait, pour leur dire ce qui se passait, pour traduire. On a une des animatrices qui parle, qui maîtrise le turc. Donc, on a utilisé tous les réseaux sociaux qu'on avait, à la fois le WhatsApp, mais aussi le Facebook de la Maison Rôle Tanguy, parce que c'est le seul, finalement, c'est le seul lien qu'un certain nombre de familles. Et ça, on l'a découvert là, parce qu'on n'imaginait pas, on l'imaginait pas comme ça. Ça a été, c'était le seul lien pour certaines familles de communiquer ou de rester en lien, sur la France en fait. Ils sont complètement tournés vers leur pays, vers leur communauté, et les consignes, les documents, tous les documents de sortie, c'était compliqué. Donc on a transformé le centre social avec du présentiel en un centre social avec du virtuel où toutes les équipes, au fur et à mesure des semaines, mais je vais peut-être un peu vite là dans ton déroulé, mais se sont organisés pour continuer leur travail à distance, téléphone, réseaux sociaux. On a fait le lien avec les écoles, on a envoyé les devoirs aux familles, et on a fait revisiter la table de multiplication pour les enfants. Enfin, on a eu chargé le compte Facebook, la page Facebook, avec plein d'informations où on savait que il y avait des publics très différents qui pouvaient s'y retrouver.
Alors, tu nous as parlé de ce rôle de médiation, justement, pour expliquer un peu la mise en place du confinement auprès des populations du quartier. Tu peux nous expliquer, nous en dire un petit peu plus, comment ça consistait en quoi ? Ça se faisait à distance, par téléphone, avec peut-être un présentiel en respectant les normes
Alors, de distanciation sociale. Déjà, dans un premier temps, et je pense comme tout le monde, au début, on était tous confinés. Et donc, ça s'est fait à distance. On a d'ailleurs organisé des réunions déjà entre nous, s'organiser, faire des réunions de service avec Zoom, enfin voilà, en visioconférence. Et puis chacun a repris tout doucement sa place et sa fonction. Voilà, l'équipe d'animation jeunesse, ils se sont concentrés sur leur public, avec le téléphone, avec les réseaux, voilà, de reprendre contact, d'essayer de savoir un peu comment ça se passait. Tout le secteur adulte, tout le secteur famille, voilà, on a tout doucement, le secteur enfance, tout doucement, on a repris finalement, chacun a repris sa mission, et puis on coordonnait un peu tout ça, et on pouvait donner de l'information, ça c'est très clair. Toutes les informations, par exemple, sur le... Il y en a eu plein de souvenirs. Celle qui a eu aussi beaucoup sur tout ce qui était violence conjugale. Tu vois, par exemple, tout ça, on a fait les relais sur les numéros de téléphone. On a expliqué ce que c'était. On a fait le relais auprès des familles qui du coup arrivaient pas à se connecter à Pronote ou qui étaient en difficulté dans la poursuite et dans le lien scolaire avec l'enseignant. On a été en contact avec les enseignants. En fait, on a hérité, on s'est appuyé, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment bien travaillé, Harold Tanguy, sur ce réseau. C'est-à-dire que tout le réseau qu'on a constitué depuis plusieurs années, et que chacun a constitué, on s'en est servi, en fait. Et le contact que tu peux avoir avec une directrice, Paul Bert, le directeur François Mitterrand, c'était facile d'être avec eux, de se dire, tiens, il y a la famille X, la famille Y, elle est en difficulté, paf, on faisait le lien. Et finalement, on a fait ce maillage, et on a vraiment été au centre et on a pu rebalancer les informations, pouvoir répondre aux attentes et aider les familles les plus en difficulté. Ça a été sur le plan scolaire. Donc Muriel a beaucoup travaillé avec des familles, et notamment les familles turques dont les enfants étaient un peu en galère, et il y a eu des photocopies. Donc on a fait des photocopies, on a distribué les devoirs quand c'était pas possible pour les familles de les récupérer. On a essayé de colmater un peu les manques, les difficultés. On a le secteur adulte a repris les cours un peu, enfin de tout ce qui était activité sportive, en mettant des activités, ce qu'ils pouvaient faire pendant le confinement. Enfin, ça a été vraiment dans tous les sens. Il y a toutes les familles dans le cadre de la réussite éducative, toutes les familles qui sont peut-être un tout petit peu plus fragiles. Là, il a fallu effectivement être un peu plus présent. On les appelait toutes les semaines. On essayait de voir un petit peu avec elles comment on pouvait les aider. On a mis en place, et c'est là où ça a été pas mal, mais c'est la ludothèque, le prêt de jeu. En fait, on a une très belle ludothèque. On a aussi une page ludothèque sur la ville qui dépend des centres sociaux. Et on n'a pas pu faire fonctionner la ludothèque, mais on a pu organiser le prêt. Donc, on a vraiment très vite acheté des jeux et proposé des prêts de jeux aux familles qui étaient les plus démunies. Voilà. Et puis tout ce qui est aide alimentaire aussi, on a pu faire le lien avec la ville, le CCAS. Enfin, en tout cas, on a été le plus près possible des familles dans le respect des règles un peu sanitaires, enfin, puis du confinement. Donc, je pense qu'on est vraiment rentré chez les gens, mais d'une autre manière. Je pense que des fois, les familles en avaient marre qu'on les appelle ou qu'on soit toujours un peu. Ça a été une expérience assez particulière, mais assez riche, du coup, en relations et en liens.
Donc ça, c'est toi, tu as appelé des familles, par exemple. Tu dis qu'elles en avaient marre, peut-être aussi qu'elles étaient rassurées.
Il y a peut-être j'exagère, mais c'est vrai qu'il y a des familles qui étaient rassurées. Il y a des, je pensais qu'à Outard, qui est notre animatrice qui travaille en direction des habitants au sens large, elle a même été faire des courses pour un certain nombre de personnes isolées. Personne seule, âgée, qui était complètement, qui était repliée à la maison, qui ne voulait pas sortir, qui était dans la peur aussi de la, de, 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 voilà, de, mm-hmm. d'attraper le virus. Donc, elle a été récupérée des courses au drive. Enfin, elle a été aussi beaucoup en soutien. Voilà. Donc, je pense que les familles, ça les rassurait, mais on était rentré dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment où on appelait et puis on était avec les gens. Ouais.
Alors, Manon, toi, tu étais à l'accueil des enfants de personnel soignant et personnel indispensable au fonctionnement de la nation. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Oui.
Oui, c'est ça.
Matin et soir, sur une et deux écoles. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consistait?
En fait, on a mis plusieurs équipes de deux personnes sur, au départ, deux écoles de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et en fait, il y avait une équipe qui faisait le matin et une équipe qui faisait le soir, tout simplement, au niveau des trajets, etc. Et donc, avec ma collègue Audrey, pendant un certain temps, on était positionnés sur l'école Paul Doumer, en accueil de soir, et puis sur les temps de TAP aussi, et de mercredi après-midi. Des temps où on intervient logiquement en temps normal.
Accueil du matin, accueil du soir et accueil TAP.
C'est ça, et les mercredis.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se déroulait donc, cette présence avec les enfants et les jeunes? J'imagine qu'il y avait un protocole à respecter, un protocole sanitaire à respecter. Explique-nous tout ça.
Bah moi, je vois déjà qu'on a commencé vraiment au tout début. Quand, comme disait Philippe, au début, on était un peu dans le flou aussi, le temps que tout se mette en place. Donc, les premiers jours, en tant que professionnel, c'était particulier parce qu'on se retrouve face à des enfants qu'on ne peut pas trop approcher. Nous-mêmes, on ne sait pas trop comment on doit réagir. Et puis, on se retrouve aussi face à des questions. Comment ils s'amusent? Comment ils se détendent? Puisque nous, on est là pour ça aussi. Et qu'est-ce qu'on fait finalement? Donc, pendant la première semaine où on est intervenu avec ma collègue, il y a eu tout au moins deux jours où on a commencé à se dire comment on met ça en place. Et puis, petit à petit, ça se fait. Ça part sur des désinfections après le départ de l'enfant, des enfants, etc., quoi.
Et comme activité, alors vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous leur proposiez?
On restait sur des choses vraiment simples parce qu'on était vraiment dans un début de confinement et une mise en place. Donc ça restait sur des jeux. En plus, à ce moment-là, on avait une ou deux, trois enfants. Donc ça restait sur des jeux assez simples dans leur coin avec les distanciations sociales aussi qu'on avait déjà mis en place. Donc c'était vraiment simple.
Et il y avait un relais qui était fait avec les enseignants ensuite. Donc ils étaient en accueil du matin et puis après donc ils allaient en classe.
C'est ça. L'équipe du matin emmenait les enfants qui étaient en accueil sur l'école avec les enseignants et le soir en retour on venait les chercher dans la classe directement aussi.
De l'aide aux devoirs peut-être, non?
Non, pas vraiment.
Non, d'accord. Non.
En plus c'était pas forcément des enfants qu'on touche habituellement, donc il y a aussi ce petit côté de faire un lien. Mine de rien, il y avait un côté positif aussi de rencontrer des enfants qu'on connaît pas d'autres écoles. Et puis on est aussi intervenu après sur les vacances, du coup les vacances d'avril. Sur un système d'une équipe le matin et une équipe l'après-midi. Pareil, ça a créé un petit groupe qui du coup s'était retrouvé sur une seule école au bout d'un moment. Et ça a créé un petit groupe qui était soudé. C'était particulier à voir, mais c'était intéressant aussi de voir que ce petit groupe d'enfants, depuis le début, ils étaient ensemble. Là, sur les vacances, ils étaient encore ensemble. C'était les mêmes. Et ça a créé quelque chose, même entre nous, avec les enfants. C'était vraiment intéressant, malgré le côté...
Mais en termes d'activité, qu'est-ce que vous faisiez?
Sur les vacances?
Oui.
Là, par contre, on était déjà un peu plus rentré dans le vif du sujet, donc on a pu proposer des activités assez ludiques de vacances, des jeux extérieurs, tout en gardant les règles de distanciation, et puis des jeux de société, des choses qu'on fait pendant les vacances.
D'accord. Tous les deux, vous avez également assuré une continuité distanciel, parce que c'est maintenant comme ça, c'est comme ça qu'on parle, donc le présentiel auprès des enfants de personnel soignant, mais aussi tout un travail qui a été fait à distance. Est-ce que vous pouvez un peu me décrire les différents projets que vous avez mis en place, Youssef et Manon?
Toute l'année déjà on a le lien avec ces jeunes par rapport aux réseaux sociaux et par rapport au portable, donc ça nous a pas trop changé de d'habitude. On essayait de prendre des nouvelles d'eux par rapport aux réseaux sociaux et tout, et on a essayé de mettre en place des interviews que Manon a appelé micro-trottoir pour savoir comment ça se passait leur confinement entre guillemets, mais ça c'était plus après. Mais après sinon par rapport aux réseaux sociaux on leur demandait. Après tous nos projets ils ont été un peu stoppés de l'année entre guillemets, tout ce qu'on faisait à la maison à la maison pour tous, il y a eu plein de projets
Il y avait quoi comme projet en cours qui ont été stoppés?
Y a le projet Europe de Manon, en fait, qui consistait à visiter plusieurs pays avec des villes jumelées avec Saint-Jean-d'Aruel. Du coup, elle devait partir. Elle avait pour le projet de partir en Espagne, ça a été un peu stoppé. Moi, de mon côté, je faisais un projet bricolage, en fait. On commençait à fabriquer des voitures en bois pour les envoyer aux enfants du Mali. Donc, du coup, ça a été aussi stoppé par rapport au confinement. Et je crois que c'était tout. Après, je ne sais pas si tu vois d'autres...
Je pense que dans un premier temps, ce qui a été important, c'est... comme tu disais tout à l'heure, il y a eu l'annonce qui a été faite, mais les jeunes sont venus le vendredi avec beaucoup de questions, puisque le vendredi, c'était pas encore fermé, avec énormément de questions. Ils étaient au courant, mais maintenant, comment ça se passe? Et puis du coup, de fil en aiguille, que ce soit le week-end ou la semaine, il a fallu répondre à leurs questions, les informer aussi, et rester en lien avec eux sur tout le long du confinement, sachant qu'après, il y avait énormément de questions au niveau scolaire, etc. Enfin, on était là pour répondre, et énormément aussi de fausses informations sur les réseaux sociaux. Par exemple, le fait que les vacances d'été seraient annulées ou décalées, enfin des choses qui se relayent, et où il a fallu là-dessus regarder en permanence leurs stories, ce qu'ils partageaient, voir s'il n'y avait pas des choses complètement sorties de nulle part, et rediscuter avec eux tout le long du confinement sur ces choses-là, leur dire que oui, il y aura des annonces, mais qu'il faut regarder, qu'il faut s'informer, etc. C'est quelque chose qu'on fait aussi au long de l'année, mais là d'autant plus. Et puis discuter après cette annonce du coup du bac en continu, du brevet en continu, rediscuter avec eux surtout autour de leurs inquiétudes, autour pareil de leurs questionnements. On a des jeunes comme beaucoup qui n'ont pas forcément énormément bossé tout au long de l'année, qui s'étaient dit allez sur la fin au moment du bac je vais mettre mon petit coup de collier, mais là c'était pas possible. Donc il y a eu aussi ce moment de réflexion, de se dire ouais, effectivement les jeunes ils dorment le jour, ils vivent la nuit, mais est-ce que c'est juste parce qu'ils ont rien à faire et qu'ils font ce qu'ils veulent, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des questionnements, des inquiétudes, et que finalement au niveau moral ça va pas trop? Et effectivement, le fait de discuter avec eux sur les réseaux, j'ai envie de dire pratiquement tout le temps, tout au long de la journée, ça nous a aussi permis de nous rendre compte que c'est compliqué pour un adulte, c'est compliqué pour une personne isolée, mais c'est compliqué aussi pour un jeune qui, en cette période-là de notre vie, on le sait, on est un peu plus isolé aussi, nous-mêmes on s'isole, et puis il y avait besoin d'avoir ces discussions. Et je pense que on s'est aussi rendu compte qu'on avait des jeunes qui le vivaient, mais vraiment, vraiment mal, en fait, qui se posaient énormément de questions, qui n'étaient pas forcément devant la télé H24.
Alors, je précise pour les auditeurs, auditrices, tu es ce qu'on appelle promeneur du net. Oui. C'est-à-dire que tu es identifié dans la rue numérique, on pourrait dire, auprès des jeunes, et donc tu partages un avatar public avec eux. Donc, c'est qui ça. Te permet de voir leurs stories sur Instagram, sur Facebook, etc.
Sur Snapchat, etc.
Et alors, tu disais par exemple des fausses informations, tu voyais des angoisses qui pouvaient se faire par rapport à... Parce qu'on a entendu beaucoup de choses et leur contraire des fois du jour au lendemain, et pas forcément des fake news, hein, de la parole gouvernementale, hein, sur l'histoire des masques ou du gel, etc. Dis-nous un peu qu'est-ce que tu as ressenti justement chez eux, chez ces jeunes,
je pense
dans
que
la rue numérique.
Déjà, ça, au niveau des fake news, que ce soit ados, adultes, enfin, je pense qu'on a tous pu en voir quelque chose. Il y a tout et n'importe quoi qui a été relayé, encore plus qu'en temps normal. Et du coup, peu importe la tranche d'âge d'ailleurs, et sur nos jeunes aussi, du coup, il y a eu masse d'informations qui sortaient de nulle part. Donc je pense que même Youssef qui a un lien avec les jeunes, avec notre public sur les réseaux, je pense que tu l'as vu aussi, c'était, enfin, on se disait avec Youssef, faut vraiment qu'on intervienne là-dessus, parce que c'était le truc le plus important, quoi. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, vraiment on a senti que la panique, elle fait partager beaucoup de choses, elle fait réfléchir sur beaucoup de choses, mais pas forcément du bon côté parfois, que ce soit chez les adultes, les enfants ou les jeunes. Et du coup, nous, c'était sur les jeunes notre intervention au maximum, quoi.
Alors, tu as parlé d'un mal-être. Vous pouvez m'en parler un peu, tous les deux? En quoi il consistait, ce mal-être? Quel type de mal-être?
Comme on disait, au final, il y avait un peu ce cliché du jeune qui est resté toute la journée, chez lui, tranquille, qu'il était content qu'il n'y ait pas école, du coup, et qu'il est resté sur son téléphone, les réseaux sociaux. Mais comme on a dit, vu qu'on a discuté tous les jours un peu avec eux, on a vu qu'en fait, c'était pas du tout le cas, et que... Voilà, il y en a, entre guillemets, qui pétaient un câble chez eux, en fait, et qui tournaient en rond, qui trouvaient pas grand-chose à faire, en fait. et que voilà quoi, c'était pas ils étaient pas tranquilles devant Netflix sans se poser de questions et sans inquiétude pardon. En gros.
Puis je pense aussi à les inquiétudes au niveau scolaire. Enfin, il y en a. Oui, les devoirs au niveau d'internet, oui, c'était fait, mais c'était compliqué, quoi. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, on bosse encore plus que quand on est en cours, parce que chaque prof met sa dose de devoirs, ce qui est logique, mais du coup, ça représente encore plus. Et puis après, on a eu des jeunes qui nous ont dit, enfin, je pète un plomb, je regarde par la fenêtre, je vois des gens qui sortent, alors que c'est pas autorisé. Enfin, puis ils se mettent leur petit truc en tête. Et puis après, on avait aussi le stress, tout comme les adultes, tout comme tout le monde, on avait le stress qui ressortait de, mais moi j'ai peur. Après, comment ça va se passer? Je suis stressée et au niveau de ma santé ou de mes proches, la plupart d'ailleurs avaient peur pour les proches. J'ai peur, quoi. En gros, ils étaient vraiment dans cette flip qu'on peut se dire, bah c'est un jeune, c'est bon, tranquille. Mais c'était pas le cas en fait, et on s'en est rendu compte assez rapidement.
Non, bah c'est bon, à part aussi, il y avait aussi cette différence par rapport aux jeunes. Après, de l'accompagnement scolaire à la maison, en fait, ils n'ont pas tous le même accompagnement chez eux qu'à l'école, en fait. Il y a certains parents qui ne peuvent pas aider forcément les jeunes à faire à les aider à faire leurs devoirs, ou il y en a qui sont un peu plus aidés, ou voilà. C'était des problèmes différents pour chacun des jeunes, en fait.
Bien sûr, oui, oui. D'accord. On en a parlé sur Radio Campus par ailleurs. Mais effectivement, pour une famille de 3-4 enfants, il ne pouvait pas y avoir forcément 3-4 PC.
Exactement.
Voilà. Les émotions sont communicatives, d'une manière générale, la joie, la bonne humeur, la tristesse et les angoisses. Comment est-ce que vous arriviez à vous préserver de ces angoisses que vous transmettez les jeunes et réussir à ne pas tomber dans ces angoisses et plutôt les rassurer?
Ah, franchement, c'était compliqué. Je vais pas mentir. C'est pas le fait d'angoisser, c'est le fait de sentir que les jeunes qu'on côtoie et qu'on a au quotidien, ils sont pas bien. Et ouais, on a ce lien au niveau des réseaux, etc. Mais on n'est pas là en présentiel comme on peut le faire d'habitude. Je pense que ce soit aussi bien Youssef que moi. Enfin, c'est notre travail, ok. Mais on a ce lien qui se crée et qui est fort. Et clairement, enfin, on est sorti du confinement avec cette idée de faire parler la jeunesse, parce que ça avait pas été le cas. Et ils en ont souffert, quoi, aussi. Donc oui, c'est vraiment ce problème de se dire, je peux pas intervenir en présentiel, et c'est dérangeant, en fait.
Un sentiment d'impuissance, en quelque sorte.
C'est ça, exactement.
Entre guillemets, ouais.
D'accord. Et est-ce que un lien avec les familles, est-ce que vous aviez un lien avec les familles aussi, à travers les jeunes, ou est-ce que vous les poussiez justement à avoir un dialogue avec leurs parents?
Au niveau des jeunes, je sais qu'on a un lien assez régulier tout le temps avec les jeunes, mais les parents, c'est très rare. Les parents, on les voit en présentiel déjà tout au long de l'année, lors de l'inscription, etc. Les parents, c'est compliqué sur le secteur jeunesse. Et du coup, non, pendant le confinement, il n'y a eu aucun lien. Par contre, effectivement, on s'est bien douté qu'il y avait un manque de communication sur certaines familles, juste de se poser avec son enfant. Parce qu'on, en tant que parent, et c'est logique, on se dit... Mon gamin, il a 15 ans, il suit très bien ce qui se passe, il va comprendre, et j'ai pas besoin de me poser et de discuter avec lui. Je pense que c'était quelque chose d'important à faire, juste de se poser, de lui dire, alors est-ce que tu es inquiet? Tu veux qu'on en parle? Et je pense que c'est quelque chose qu'on... Et il faut pas jeter la pierre, mais c'est quelque chose que peu de parents ont pensé à faire, parce qu'on se dit, il est grand, c'est bon, il suit. Mais forcément, dans leur tête, il y a plein de choses qui se passent et plein de questions, et on veut pas trop embêter maman et papa parce qu'ils sont déjà assez stressés, le travail, tout ça... Du coup, je pense qu'il y a eu aussi ce petit décalage.
Alors, l'adolescence est une période particulière dans la vie d'un individu, dans la mesure où on sort de l'enfance et on est un peu des fois replié sur soi, dans son imaginaire, dans son petit monde. Et l'école est là pour ça, hein, depuis la maternelle, en primaire, mais encore plus au collège où les relations amicales commencent à devenir un peu plus fortes, et encore plus au lycée. Ces jeunes à qui on a demandé, c'est une injonction qui leur a été formulée, de rester chez eux à domicile, à s'occuper eux-mêmes d'eux-mêmes via la continuité pédagogique, la nation apprenante. L'inverse de ce que vous faites en vous avec les ados, au contraire, puisque vous allez les chercher, vous les faites sortir de chez eux pour justement créer du lien social, des activités, du jeu, et puis après des valeurs telles que l'entraide, la solidarité, l'ouverture sur le monde, la culture. Vous êtes revenu en arrière en quelque sorte, là, c'est un retour en arrière de votre public, vous devez repartir à zéro.
C'est compliqué. Depuis le déconfinement, c'est compliqué. Déjà, comme je disais, ce petit stress-là, il a joué après sur la fin du confinement. C'était déconfiné et on avait beau faire des tours de Saint-Jean-de-la-Ruelle pour essayer de croiser nos jeunes, on les croisait pas. Tout simplement parce qu'on en a plusieurs qui nous ont dit « Non, non, je vais rester encore chez moi. Enfin, je suis inquiet. » Et puis, au fur et à mesure, le lien s'est recréé entre les jeunes eux-mêmes, ce qui est normal dans un premier temps, et puis avec nous. Mais ça reste encore... encore compliqué. Après, je pense qu'ils ont besoin d'être en extérieur, de se retrouver tous ensemble avant de nous retrouver, nous.
Alors justement, comment ça se prépare? Comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes rentré le 11 mai au travail, enfin vous êtes sorti du télétravail que vous exerciez les uns les autres, et donc vous êtes revenu au boulot. Philippe, comment ça s'est passé le retour au turbin?
On était contents de se retrouver, déjà. Oui, je crois qu'on est comme tout le monde, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui composent l'équipe étaient contents de pouvoir se retrouver, de pouvoir effectivement repartager des choses et puis repartir un peu, se dire on va pouvoir réouvrir la structure. Donc on a passé un peu de temps à imaginer que dans quelle mesure et comment on allait ouvrir. En tout cas pour moi, alors j'écoute avec attention ce qui est dit, mais bon, on avait déjà pu en échanger avant, mais moi je m'attendais vraiment à ce que y ait un retour massif de la population et surtout des jeunes. Et Dieu sait qu'en plus on est dans ce milieu-là, on est habitué, on les voit tout le temps ces jeunes, mais on s'est rendu compte que non, et que tout ce que Manon Youssef explique depuis tout à l'heure, en tout cas pour moi, je l'avais pas du tout imaginé, j'avais pas du tout perçu qu'effectivement, c'était les grands oubliés de ce confinement, qu'on en avait très peu parlé, il y avait pas de problème. Donc c'est vrai que sur le quartier, ça a été super calme pendant toute la période de confinement, aucun problème quel qu'il soit. Donc on s'est pas préoccupé de la jeunesse. C'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé des familles, des personnes seules, les jeunes. Et je pense que c'est une erreur et ils font bien d'insister dessus et d'essayer de travailler là-dessus aujourd'hui. Je trouve que vraiment, je pense qu'on a peut-être loupé quelque chose, même si ils ont essayé de lutter et de travailler avec ce public-là. Et donc là, résultat, les jeunes, ils sont pas forcément au rendez-vous. En tout cas, on leur propose des plages horaires où ils prennent sur rendez-vous, sur inscription, et que là, c'est très très calme, quoi. C'est très très calme. Je pense que le retour à l'école de ces collégiens, là, les premières semaines, je crois qu'il devait y avoir 24 ou 25 jeunes, 6e, 5e, qui sont revenus au collège Malraux sur 200. Enfin, je pense que le collège était un peu désespéré aussi. Ça a repris très timidement et là aujourd'hui on est parvenu à une situation comme avant le confinement. Donc il y a vraiment à aller les chercher, à aller à leur rencontre et essayer de reconstruire des choses. Pour le public adulte, c'est pareil, même si là, tout doucement, de semaine en semaine, voilà. Et puis on voit bien aujourd'hui à la structure, il y a du monde partout. Donc, voilà, tout, ça y est, ça est en train de reprendre un peu son rythme, mais ça a été compliqué. Ouais. Et puis pour la situation des jeunes, avant qu'ils présentent un peu ce qui, enfin, c'est vrai qu'on a pris l'option on est parti de l'hypothèse que quand même ces jeunes, ils avaient été pendant plusieurs mois à la maison, sans cadre, à pouvoir, enfin voilà, sans forcément de cadre, sans forcément de but, de consigne. Et on sait que d'habitude les jeunes, quand ils viennent ici, ils ont besoin justement de pas avoir de cadre et ils viennent pas, ils picorent. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et du coup cette année, on a voulu plutôt créer des programmes d'activités plus structurés, plus cadrantes, justement en se disant le cadre, ça apporte forcément une sécurité. Alors c'est contre nature pour ce public-là. Alors c'est un pari. On en a échangé longtemps avec les animateurs. Parce que d'habitude ces jeunes-là aiment pas leur dire on vous propose une forme de stage sur une semaine, faut venir tous les jours à telle heure, ça généralement ici ça fonctionne pas. Et ben là c'est vrai que sur cet été c'est ce qu'on propose. Donc on a pris un peu le pendant en se disant que ça allait être ils allaient avoir besoin de cadre sur les vacances, peut-être des choses qu'ils n'ont pas pu avoir jusqu'ici. Et je laisse la parole aux équipes. Alors,
non, moi je voulais savoir, toi, en tant que directeur, comment le 11 mai, justement, tu as remobilisé tes équipes, donc vous étiez content de vous retrouver, mais comment est-ce que, donc tu t'attendais à ce qu'il y ait un afflux de jeunes, mais comment est-ce que chacun est revenu à sa place, tout en sachant qu'il y avait, depuis le confinement, la période du 13 mars, un changement total dans les rapports humains, donc la distanciation physique, j'ai le droit alcoolique, gestes barrières, masques, etc.
Bah, en fait, on est, c'est un petit peu particulier pour nous parce que les deux centres sociaux, hein, mais que ça soit Sud et Nord, on a contribué largement à l'accueil des personnels, des enfants, des personnels soignants, comme Manon en parlait tout à l'heure. On a proposé des activités sur les vacances scolaires, donc on a toujours été un peu en contact et en lien tous. Alors tous non, mais en tout cas l'équipe permanente, l'équipe centre social. Et puis on s'est mobilisé aussi, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on s'est aussi très vite mobilisé sur la fabrication de masques. Donc en fait les membres, les équipes permanentes, elles ont toutes été sur toute la durée du confinement très occupées à mettre en place des choses. On a mobilisé des bénévoles, on a participé à la distribution des masques, enfin en tout cas on a contribué à la fabrication des masques à l'échelle de la métropole pour l'ensemble des habitants. On a fait plus de 3000 masques je crois sur la ville, enfin voilà. Et donc il y a eu une énergie, il y a eu plein de choses de faites. Donc on s'est pas arrêté. Enfin, je pense que les petites équipes de permanence se sont retrouvées avec plaisir. Mais c'est vrai qu'on s'en était adapté. Alors il y en a qui travaillaient à la maison, il y en a qui avaient des enfants donc ils venaient pas tout le temps. Mais il y a pas eu cette rupture de lien. Par contre, effectivement, t'as raison sur les autres membres d'équipe, les autres animateurs qui du coup ont pas été sollicités, mais qui viennent sur les temps de rythme scolaire, ça a été plus difficile de revenir, ça a été plus lent, il a fallu une période d'adaptation. Et puis effectivement, on a certains membres de nos équipes, alors une minorité qui sont très très en difficulté, ça a provoqué des choses, des remises en cause, des choses sur le plan personnel qui font que ils sont pas encore revenus ou ils sont en difficulté pour revenir. Voilà. Mais je dirais que pour nous ça a été c'est une minorité et que la majeure partie des équipes étaient contentes de revenir et de repartir à l'attaque parce que alors je vais faire le démago mais c'est vrai qu'il y a un sens du service au public, service public mais service au public ici. Enfin je trouve que vraiment il y a une équipe qui est top et qui est très centré là-dessus, donc forcément ça nous anime quoi. Enfin, hein, on va pas parler d'éducation populaire ou de, mais c'est ça en fait. C'est ce qui fait que on revient très vite sur le terrain et essayer de se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens, comment on fait quoi, et on y va.
Alors comment vous faites et comment vous allez y aller? C'est l'été là, enfin depuis quelques jours, et donc normalement, enfin traditionnellement, je sais que des fois c'est depuis février ou sinon au plus tard en avril que se prépare le planning de l'été. Il a fallu tout revoir, donc j'ai annulé les projets en cours. Hein. Tu nous disais par exemple la construction de meubles en bois, c'est ça?
De voitures en bois, pour envoyer aux enfants du Mali. Voilà. C'est un projet qu'on avait eu et du coup c'est un peu mis en stop jusqu'à la reprise dès que possible.
Ou le séjour en Espagne aussi que tu avais planifié avec un groupe de jeunes.
C'est ça.
Donc tout ça, hop, on balaye, on oublie, il faut reconstruire un planning d'activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
Déjà, dès le retour au travail, ça a été notre première question parce que l'été a... Comme tu le disais, l'été arrive vite et généralement on est déjà dessus. Mais ça a été la première question, ça a été comment les mobiliser, qu'est-ce qui donnerait envie tout en restant dans le respect du protocole qu'on avait à l'époque et qui est maintenant un nouveau mais toujours toujours sous protocole. Du coup, on a réfléchi et on a réfléchi tous ensemble vraiment au sens large et on s'est dit que effectivement, comme disait Philippe tout à l'heure, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Avec un peu plus de cadre, sachant que ça fait des années qu'on essaye de travailler sur l'engagement des jeunes, c'est-à-dire tu viens pas une heure ou deux, même si ça fait plaisir de dire bonjour, mais tu viens et tu t'investis. On a essayé l'année dernière sur l'été avec un délire de points, mais là je trouve que tout s'y prêtait, donc effectivement on essaye, comme dit Philippe, c'est un pari. Et du coup par semaine en juillet et en août on a 3 ou 4 stages qui sont proposés, 3 ou 4 sessions qui sont des sessions à la semaine, donc le jeune vient du lundi au vendredi, Comme en ce moment, ils sont obligés de s'inscrire à l'avance, puisque pour que nous, on puisse prévoir le nombre de jeunes qui est présent sur les actions et qu'on dépasse pas le quota. Et puis voilà, on a essayé juste de proposer des sessions qui peuvent répondre un peu au plus grand nombre. Après avoir fait un petit diagnostic sur Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est-à-dire qu'à la fin du déconfinement, on a pris les voitures aux jambes et puis on a fait le tour de Saint-Jean-de-la-Ruelle. On a rencontré les quelques jeunes qui osaient s'aventurer dehors et avec qui on a discuté, en leur demandant qu'est-ce qui les intéressait le plus, sur quelle passion ou quel intérêt ils s'étaient découverts pendant ce temps, qu'on relève un peu aussi le côté positif, un côté positif au moins. Et du coup, on a réfléchi autour de d'actions artistiques, culturelles, sportives, et de manière à répondre un peu au plus grand nombre et de rester dans un délire d'engagement sur les semaines d'été.
Et donc, le programme sera constitué de quel type d'activité?
Comme elle a dit Manon, c'est culturel, artistique et sportif. Donc, on a essayé de mettre un peu pour tous les goûts. Quand je prends la première semaine, par exemple, il y a une session avec un intervenant qui est Camilou de KSA Coaching. Il va proposer des sports innovants, en fait. Moi, je propose une session briques aux meubles, c'est-à-dire fabrication de meubles avec du bois. Manon, elle propose une session photo. Et il y aurait un autre animateur aussi qui proposerait un stage dessin, entre guillemets, hein, une session dessin. Donc on essaye de... Enfin, on a fait par rapport à la demande des jeunes aussi, parce que Manon avec Mamadou, je crois, ils ont été demandés ce qui les intéressait... Enfin, ce qu'ils voulaient faire cet été, il y a eu, par exemple, le dessin qui est ressorti, la cuisine, le côté sport aussi, qu'ils n'oublient pas, les jeunes, qui est très important. Donc, on a essayé de proposer un peu toutes les activités qui respecteront aussi le protocole au maximum.
Alors, le protocole, oui.
Oui, parlons-en. Oui, je voulais juste compléter par rapport aux activités proposées. C'est vrai que donc on a configuré des activités avec des intervenants et c'est vrai qu'on a fait appel à tous les intervenants avec lesquels les jeunes ça a matché, quoi. C'est-à-dire que c'est des intervenants avec lesquels on a déjà travaillé, avec les jeunes ont accroché et donc on s'est dit voilà, c'était aussi se donner un peu plus de billes pour avoir effectivement du contenu de qualité. Et puis donc c'est tous les après-midi et en parallèle de ça on travaille avec la métropole et les services de prévention spécialisés sur l'accueil de jeunes le matin sur la question un petit peu plus scolaire, renforcement scolaire. Donc on est sur cette notion, on entend beaucoup parler de vacances apprenantes. L'idée c'est de pouvoir associer à la fois des temps de remise à niveau et puis des temps de loisirs éducatifs. Voilà. Et c'est un peu tout comme ça que ça a été pensé. Et le collège a pu redonner un peu le contenu de ce programme-là, sur Pronote par exemple, et va faire une démarche en direction des jeunes et des familles qu'elle pense devoir mobiliser sur du contenu un peu scolaire pour qu'ils puissent intégrer le matin des temps de formation, enfin des temps d'accompagnement, de renforcement scolaire qui se feront à Rol Tanguy. Et puis hop, l'après-midi, on bascule sur une activité ludique proposée.
Pédagogique.
Vous êtes serein pour l'avenir de la jeunesse, alors pas pour vous, hein, je ne demande pas pour vous, mais voilà, tous ces bouleversements, qu'est-ce que vous ressentez, puisque vous êtes au contact des jeunes, vous les voyez, vous en sont où là, le mieux ça serait de leur demander évidemment,
effectivement.
Mais vous en tant qu'adulte animateur qui avez cette distance aussi, qu'est-ce que vous ressentez?
Je pense qu'on est serein parce que c'est des jeunes du coup qui sont sortis dans un premier temps, comme je disais, un peu renfermés, sans savoir un peu. Mais quand on les pousse un peu, c'est des jeunes qui ont beaucoup de choses à dire et justement qui ont envie de s'exprimer encore plus qu'avant. Et du coup, c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand on laisse parler la jeunesse. Il y a plein de choses qui en ressort et ils ont envie de s'exprimer, peu importe le moyen. Donc, je pense qu'il y a encore de belles actions et de belles choses de prévues et qui vont se faire.
Alors oui, Youssef également.
Moi pareil, je suis assez serein au final. Je pense que à la rentrée, ça va revenir petit à petit, et puis les projets qu'on a mis en suspens, au final, ils vont reprendre dès la rentrée prochaine, à peu près normalement. Enfin, ce qu'on espère.
D'accord. Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent. Enfin, je vais vous dire pourquoi je suis pas aussi serein que vous. Je pense que le chiffre de 4% avancé par le ministère de l'Éducation nationale est en dessous des réalités de terrain, de décrochage scolaire qu'ont pu subir justement les jeunes avant le confinement déjà, puisqu'il y avait déjà des situations, et puis accentué par le confinement. Il est nécessaire qu'ils viennent, qu'ils se resocialisent peut-être dans un premier temps, avant même de reprendre le collège et les apprentissages, qu'ils sortent de cette bulle.
Mais c'est pour ça que c'était intéressant du coup de mettre en place cet été quelque chose d'un peu cadré, tout en restant dans le côté ludique, puisque on repart après sur cette base de cadre et sur cette base scolaire. Après, il y a des choses aussi qui trompent pas. On a dès la fin du déconfinement deux ou trois jeunes filles qui sont venues pratiquement tous les soirs pour rattraper tous les cours qu'elles n'avaient pas pu faire puisqu'elles n'ont pas accès à l'ordinateur chez elles. Et puis on a aussi ce lien qui a été fait et où on s'est rendu compte que la plupart des jeunes, du moins qu'on côtoie, étaient présents sur Pronote, étaient présents pour les devoirs. Après, je dis pas que tout le monde était dans le même cas, évidemment, mais bon, quand on se remet à la place d'un jeune, est-ce que vraiment on aurait été parfait là-dessus? Je suis pas sûre, mais je pense que c'est quelque chose où septembre, enfin quand on parle du niveau scolaire, c'est quelque chose où septembre, le mois de septembre, il joue beaucoup. Ça reste un mois de rentrée, quoi qu'il en soit. D'autant plus là, avec le retour à l'école sur les deux dernières semaines, je pense que c'est quelque chose qui remet un peu dans le moule. Et puis, bah, septembre, ça repartira sur une rentrée lambda. Enfin, j'espère.
Ouais, je pense effectivement qu'on est loin encore en capacité de mesurer les effets de cette histoire-là. Il y a effectivement la majeure partie des jeunes qui vont reprendre leur vie le jeune qui allait bien, qui était, enfin voilà, ça va peut-être lui donner encore plus envie. Et c'est peut-être ça, et c'est ça que tu disais tout à l'heure, Manon, c'est intéressant, c'est envie de s'exprimer, de dire on est là, on a envie de montrer qu'on est là, et ça c'est super. Et je pense que nous, il faut qu'on en retienne quelque chose de tout ça. Et puis il y a toute une frange de la population, une frange de ces jeunes qu'on voit pas ou qu'on voit peu ou qui était fragile, et là du coup je pense que ça a véritablement renforcé les fragilités, les difficultés, ça fait des fois exploser plein de choses. Là je pense que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on prenne le temps d'évaluer. Alors peut-être que c'est pas forcément au monde de l'animation de le faire, ou en tout cas pas tout seul, mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail à mener pour, mais au sens large, hein, les jeunes, il y a des jeunes qui ont morflé. Je pense qu'il y a aussi des adultes et toute la population a morflé. Et il y en a plus qu'on pense. Et ces gens-là, on les voit pas aujourd'hui. Et il va falloir qu'on aille à leur rencontre très vite.
Et puis vous restez présent, enfin vous, le centre social Roltanki, mais également celui de Léopold Sédar Senghor, mais les centres sociaux en général, pour assurer ce rôle de médiation entre la population du quartier et puis l'extérieur, que ce soit l'école, que ce soit aussi, j'allais dire, les services municipaux. Là, tu nous as parlé de portage de repas, que ce soit aussi, j'allais dire, les protocoles nationaux pour expliquer comment fonctionnent, quelles sont les nouvelles mesures mises en règle, quelles sont les actualités, pourquoi est-ce qu'il faut les suivre, faire. Ce rôle de médiation que vous avez poursuivi justement pendant le confinement, vous allez le poursuivre maintenant que vous êtes rouvert, en adaptant toujours justement, j'allais dire, aux nouvelles réalités qui sont les nôtres. Et puis avec peut-être, ce qui vous différencie de l'Éducation nationale, ce cadre un petit peu plus cool. Voilà, évidemment, il faut s'inscrire, hein, c'est plus cadrant, mais ce sont des animateurs, animatrices avec que vous tutoyez, enfin que les jeunes tutoient, par exemple. Voilà, donc avec un contact plus facile, avec des animateurs sur lesquels aussi les jeunes sont en contact sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est pas facile quand on a été exclu pendant comme ça un mois, deux mois, et puis voir un peu plus parce qu'ils retournent pas au collège, de retourner vers l'autre. Faut pas être trop timide, faut franchir le pas. Voilà, ils seront là pour vous accueillir. Les animateurs, je parle bien évidemment de Manon, Youssef et toute l'équipe. Merci pour vos témoignages. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion, que vous avez justement vous fait un gros travail de médiation avec les familles, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par téléphone, que ce soit par WhatsApp, que ce soit notamment en en maintenant un dialogue, une communication, une présence, voilà, et que vous êtes toujours ici et que maintenant vous êtes visible en chair et en os. Et ça, c'est très important dans les rapports humains, même si évidemment il y a la distanciation physique, ça n'empêche pas de revenir à des échanges traditionnels où quand on se parle, on se voit, et ça aussi c'est important quand même. Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci.
Au revoir.
Bondi Blog Café.
www.bondibloccentre.fr.